Voici venu le temps des courges, des feuilles mortes et des marrons. Bienvenue en automne, bienvenue chez les jardinières. Bonjour Steve.
Et bonjour à toutes et à tous, et même celles et ceux qui sont durs de la feuille. Oui, je fais des petites blagues comme ça, de matin, là, ça réveille, c'est bien.
Qu'est-ce que vous avez dit? Pour débuter cette nouvelle saison, nous sommes en compagnie de Claudine Miseré, permacultrice et cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales à la microferme biologique La Rochette à Charmoy. Bonjour Claudine.
Bonjour.
Soyez la bienvenue chez les jardinières, nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Eh bien ça y est, l'automne est là, Claudine. À part préparer son râteau pour enlever les feuilles mortes qui commencent à tomber, qu'est-ce qu'on va faire au potager ce week-end ?
Alors nous, on a commencé à préparer les plates-bandes, en fait le sol pour l'hiver. Donc on a enlevé les plantes qui sont mortes ou qui sont en fin de cycle. On les a juste hachées, mises sur la terre et recouvertes d'un petit peu de compost et de paille ou de feuilles. Et ça va permettre de préparer cette terre, de la nourrir avant l'hiver.
Et s'il nous reste par exemple des tomates qui ne sont pas encore vertes, parce que ça c'est un peu la question récurrente hein, à chaque jardinière du mois de septembre, il y a toujours ces tomates là qui ne sont pas vertes et là le temps, ben, le soleil il est parti, on en fait quoi à part de la confiture de tomates vertes ?
Alors effectivement on peut essayer de les récolter et de les faire mûrir chez soi, mais les tomates vertes hein, c'est toxique donc il vaut mieux pas les manger crues, mais ben, voilà, le chutney de tomates vertes c'est quand même super bon.
Eh bien, merci Claudine. On va du coup passer au chutney de tomates vertes. Dans quelques minutes, vous allez nous parler des différentes manières de conserver les fruits et légumes. Et on verra qu'il n'y a pas que la congélation.
Et Claudine, vous répondrez également aux questions de nos auditeurs. Voici comment nous joindre, ben, par téléphone, comme tous les samedis entre 7h et 8h au 0900 170 2020 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez le faire aussi par SMS en tapant jardin, un espace et votre question. Vous signez aussi, c'est sympa. Et vous envoyez ce message au 939 ou alors en remplissant le formulaire sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières avec la possibilité de joindre une photo de votre jardin.
La suite des jardinières, juste après la pause musicale.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, Claudine Miseré, permacultrice et cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales, va nous parler de conservation des aliments. On connaît tous la congélation, mais il existe d'autres techniques à la portée de tous et toutes que nous allons découvrir. Alors Claudine, pour commencer, pourquoi ne pas simplement tout congeler sans se poser de questions ?
Alors effectivement, la congélation, c'est une bonne méthode de conservation, hein, mais c'est vrai que c'est une méthode parmi de nombreuses autres. Et la congélation modifie quand même la texture des aliments, et puis elle nécessite malgré tout beaucoup de matériel, donc un congélateur, des sachets, etc., et bien sûr de l'électricité. Donc vu qu'il existe plein d'autres façons de faire, qui donnent d'autres saveurs et qui nécessitent peut-être moins de matériel, ce serait dommage de s'en priver.
On va commencer avec les conserves. Dans les commerces, on trouve pas mal de boîtes de conserves. On peut aussi réaliser ce procédé chez soi. En quelques mots, comment est-ce qu'on fait ses propres conserves ?
Alors l'idée de base, c'est simple, c'est de cuire les aliments, puis de les mettre en bocaux et de les faire bouillir, de faire bouillir ces bocaux fermés dans une marmite d'eau ou au four pour finir la cuisson des aliments et faire le vide d'air à l'intérieur du bocal, ce qui fait que ça va le maintenir scellé naturellement et puis ça tue tous les derniers micro-organismes indésirables. Donc il y a quand même comme quelques règles à respecter en matière d'hygiène pour réussir les conserves et les manger sans risque. Pour voir le processus, je vous recommande d'aller sur le site du parfait.fr. En fait, c'est leparfait.fr, qui est une marque de vente de bocaux pour la conservation. Et puis, il donne beaucoup de recettes et surtout un protocole qui est très détaillé sur comment faire vos conserves simplement à la maison avec vos bocaux et une casserole sans autre matériel.
Est-ce que ces conserves, on peut imaginer l'avantage, c'est de pouvoir les garder très très longtemps, comme une boîte de conserve du commerce. Il y a d'autres avantages ou des inconvénients à ces conserves ?
Alors l'avantage, moi je suis maman, hein, donc franchement quand je peux sortir mes conserves de la cave et puis juste les réchauffer, c'est hyper pratique. Et en plus c'est les légumes du jardin, je suis super contente, donc voilà. Après il y a effectivement quelques inconvénients, c'est que puisque l'aliment est très cuit, il y a plus de vitamines et certains minéraux ont aussi disparu. Et sans appareillage spécifique, ça permet seulement la pasteurisation et pas la stérilisation. Donc il va falloir quand même prendre garde aux mesures d'hygiène et puis bien vérifier que le bocal est scellé quand on l'ouvre, quoi.
En termes de contenu, est-ce qu'on peut tout mettre en conserve ?
Alors oui, on peut tout mettre en conserve, mais il y a justement quelques règles sanitaires à respecter. Et puis, si on ne dispose pas d'un autoclave ou bien d'une cocotte qui chauffe à plus de 100 degrés, donc si on fait que avec notre casserole à la maison, qui va chauffer à seulement 100 degrés, c'est vraiment impératif de s'en tenir aux recettes et au temps de pasteurisation qui sont recommandés dans les recettes. Mais franchement, on peut faire énormément de choses, aussi de la viande, du poisson, et bien sûr, toutes sortes de légumes, et les consommer avec plaisir pendant tout l'hiver.
Une autre manière de conserver ses aliments, fruits, légumes ou même les herbes aromatiques, les champignons, hein, parce que c'est la saison qui commence, c'est la déshydratation. Alors Claudine, la déshydratation, c'est enlever l'eau tout simplement ?
Oui, exactement. En fait, l'eau, c'est pas du tout un conservateur. Au contraire, donc le principe de la déshydratation, c'est de retirer suffisamment d'eau contenue dans les aliments pour que leur taux d'humidité ne permette ni le pourrissement ni le développement de moisissures, en fait, tout simplement. Donc on va sécher les aliments.
Et pour ça, on a besoin d'un déshydrateur, forcément, il faut acheter du matériel.
Alors, moi, j'ai un déshydrateur parce que je fais beaucoup de déshydratation, mais c'est vrai que le principe de la déshydratation, c'est simplement de ventiler les aliments, donc en créant un circuit d'air qui va emporter l'humidité qu'ils contiennent. Et si l'air est chaud, c'est encore mieux parce que ça accélère l'évaporation de l'eau et donc ça sèche plus vite. Mais si on n'a pas de matériel spécifique, on peut aussi le faire dans le four, par exemple, avec le four ouvert, ou bien simplement sur des clés de séchage, une plaque à gâteau, ou bien même suspendue à un fil. Donc c'est bien, ça décore la cuisine.
Et ça sent bon. Ce processus terminé, les fruits, légumes ou herbes aromatiques, combien de temps on peut conserver ces aliments ?
Alors si, ils sont bien secs, une fois qu'on les met qu'on les conserve pour l'hiver, finalement ils se conservent des années. Il faudra juste veiller à ce qu'ils ne reprennent pas l'humidité, donc on va les stocker dans un bocal fermé ou bien dans un sachet qui est dans un endroit sec et ventilé, quoi. Donc simplement éviter qu'ils moisissent comme n'importe quel autre aliment.
Merci Claudine, on se retrouve dans quelques minutes, vous nous parlerez de lactofermentation entre autres.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous parlons de conservation des aliments en compagnie de Claudine Miseré, permacultrice et cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales. Une des techniques les plus répandues et peut-être une des plus faciles pour conserver les fruits, c'est la confiture. Alors Claudine, est-ce qu'il y a quelques règles à respecter pour faire une confiture qui se conserve longtemps et puis bien sûr sans danger ?
Alors dans la confiture, le moyen de conservation utilisé, c'est le sucre qui est un très bon conservateur. Donc si on veut être sûr de réussir les confitures, il faut juste que la proportion de sucre soit assez élevée pour conserver la confiture. En général, on fait un mélange de 1 kg de fruits pour 1 kg de sucre, ce qui paraît énorme, mais en fait ça va permettre de conserver la confiture pendant très longtemps. Et puis si on veut descendre un petit peu la quantité de sucre, on peut, mais c'est vrai que moins il y a de sucre, plus il y a de risque de moisissure. Et une autre astuce pour réussir les confitures, c'est de systématiquement changer les couvercles qu'on utilise, ou en tout cas de vraiment vérifier qu'ils ne soient pas endommagés, parce qu'on a tendance à récupérer un peu les bocaux qu'on a à la cave. Mais c'est vrai que si les couvercles sont endommagés, ça va rouiller, et puis ça va contaminer la conserve, donc ce serait un peu dommage. Et puis pour toutes les autres astuces, demandez à votre grand-mère, je suis sûre qu'elle sait très bien.
Ah oui, il faut toujours s'adresser aux personnes, aux professionnels de la question.
Exactement.
Après le sucre, on va passer à l'huile. Claudine, on peut aussi conserver des aliments dans l'huile. Comment ça se passe ? Vous nous expliquez ?
Alors oui, on peut. Après, on ne peut pas tout conserver dans l'huile parce que l'huile et l'eau, ça ne fait pas très bon ménage. Donc s'il y a trop d'eau dans la préparation, ça va moisir. Donc il va falloir pré-sécher les aliments avant de les mettre dans l'huile. Par exemple, les tomates séchées à l'huile, on connaît tout ça. Et puis l'huile les protégera de l'oxygène, donc de l'oxydation et du pourrissement. Et puis pour des courtes durées, on peut conserver par exemple des petits fromages frais recouverts d'huile. Ça va aussi les protéger, mais c'est de l'ordre d'une semaine. Hein. Ce n'est pas beaucoup plus longtemps que ça.
Et puis ces conserves d'huile, on les laisse dans son frigo ou elles peuvent également partir à la cave ?
Alors elles peuvent partir à la cave, mais même rester à température ambiante, il n'y a pas de souci.
Claudine, il y a une technique qui est assez facile, enfin c'est selon vos dires, qui permet de conserver ces légumes longtemps, c'est la lactofermentation. Alors quand on entend ce mot, on pense au lait, parce que lait, lacto, voilà. Et pourtant, à aucun moment il n'est question de lait dans ce processus. Vous nous expliquez, qu'est-ce que c'est que cette lactofermentation ?
Oui, alors effectivement, la lactofermentation n'a rien à voir ni avec le lait ni avec le lactose, parce qu'ils contiennent ni l'un ni l'autre, donc ça convient parfaitement aux intolérants, hein, je le précise. Donc dans la lactofermentation, on fait intervenir plein de petites bactéries lactiques, donc c'est d'où vient le nom en fait, les bactéries lactiques donnent des lactofermentations. Et puis ces bactéries lactiques sont naturellement présentes sur de nombreux légumes, surtout les choux, on connaît tous la choucroute, hein. Et puis le principe de la lactofermentation, c'est de faire une culture de bactéries lactiques dans un milieu sans oxygène et avec un petit peu de sel. Et ces bactéries vont manger le sucre contenu dans les aliments. Et puis, en vivant, elles vont tout simplement sécréter de l'acide lactique qui va acidifier un peu la conserve et qui va la permettre de conserver ses légumes grâce à l'acidité. Et puis, la lactofermentation, finalement, c'est simplement une culture de bactéries bénéfiques qui consomment les sucres et sécrètent des acides. Et le top, c'est que ça fonctionne aussi avec le lait. Donc, on peut faire des lactofermentations de lait et ça va manger le sucre du lait, donc le lactose. Et ça aidera les intolérants à consommer du lait.
On finit de prendre des notes et on va parler ensuite du goût de la lactofermentation et continuer justement d'explorer toutes ces techniques de conservation. Ce sera dans un instant.
Les jardinières.
Comme une nouvelle saison, l'automne, la nature change, les températures baissent, mais les jardiniers et les jardinières ne vont pas chômer. Jusqu'à 8 heures, le jardinage est à l'honneur. Ce matin, nous sommes en compagnie de Claudine Miseré, permacultrice et cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales à la microferme biologique La Rochette à Charmoye.
Du coup, au niveau goût, on a parlé lactofermentation tout à l'heure, mais la lactofermentation, quel goût ça a? Qu'est-ce que ça peut apporter? On a aussi parlé un peu texture, hein, avec différentes techniques de conservation tout à l'heure. Qu'est-ce que ça donne avec la lactofermentation?
Ah, ça fait un peu peur, hein, cette lactofermentation. On dit que ça donne un truc pas bon. Non, mais je vous assure, c'est vraiment bon. Il faut juste trouver les recettes et les aromates et les légumes qui vous conviennent. Mais une fois que vous avez trouvé vos petites recettes personnelles, franchement, c'est vraiment bon. Plus on va laisser lactofermenter longtemps, plus ça va être mou. Parce que nos petites bactéries, là, elles mangent les sucres des légumes. Mais franchement, c'est pas tout mou. Franchement, c'est bon. C'est légèrement acide, à peu près comme des produits laitiers. Donc, c'est pas excessivement acide. Et puis, c'est juste bon. Au final, la choucroute, c'est bon, non?
Oui, c'est bon, la choucroute. Et puis, la lactofermentation, ça reste quand même un des processus les plus faciles à mettre en place chez soi. Il y a vraiment besoin, à part d'eau et de sel, il n'y a besoin de rien.
Il y a un bocal et vos légumes, ouais. Mais franchement, c'est tout. Il n'y a vraiment pas besoin d'électricité. Il n'y a pas besoin, franchement, de l'eau, du sel et ce que vous mettez dans vos bocaux. Et voilà.
Mais il y a aussi des techniques, là, il faut parfois un peu manipuler quand même le contenu du bocal. Ma grand-mère, en tout cas, elle, régulièrement, elle retournait son légume dans son jus pour qu'il soit bien immergé, pour qu'il y ait un peu du brassage. Il y a quand même des manipulations qu'il faut faire en cours de route.
Non, même pas.
Ah-ha.
Non, mais je vous assure, c'est vraiment
grand-maman.
Hyper facile.
Grand-maman.
Après, on a tous nos techniques. Hein. Je vous dis, les grands-mamans, peut-être qu'elles faisaient ça parce qu'elles aimaient bien secouer ses bocaux, moi. Je ne sais pas.
En tout cas, Claudine, on vous sent conquise par cette lactofermentation. Du coup, si vous ne deviez conseiller et conserver qu'une seule technique, ça serait laquelle?
Ce serait justement la lactofermentation. Parce que je vous assure que c'est bon. Et en plus, ça peut se faire avec quasiment tous les légumes. Et l'avantage vraiment qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les méthodes de conservation, c'est que ça conserve vraiment quasiment toutes les vitamines, les minéraux. Et puis, ça nécessite quasiment aucun matériel. Et en plus, ça apporte des probiotiques qui sont vraiment bons pour le système digestif. Donc franchement, je suis amoureuse des bactéries lactiques.
Et vous êtes tellement amoureuse que vous donnez des cours, hein, si la lactofermentation vous intéresse, vous qui nous écoutez. Vous retrouvez toutes les infos sur ce que nous dit Claudine ce matin sur son site, c'est vislapermaculture.ch, vis-la-permaculture.ch. Et puis moi, j'avoue, j'ai suivi un cours, je suis devenue fan de lactofermentation, moi aussi.
Et c'était voilà. Pas si compliqué.
Non, et vous êtes gentille.
Et on rappelle, la lactofermentation n'a rien à voir avec le lait. Hein. Vous voulez encore nous poser vos questions, vous pouvez encore le faire. Ça va être un peu la suite de cette émission. On va parler jardinage en tout genre. Si vous voulez revenir sur toutes ces techniques de conservation, vous pouvez le faire évidemment. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, nous poser d'autres questions qui concernent le jardinage de manière générale. Vous avez trois possibilités pour le faire. Le téléphone au 0900 70 20 20. Vous arrivez directement ici et vous pouvez directement parler avec avec notre invitée Claudine. Vous pouvez aussi passer par le SMS. Il faut taper jardin au début du message, vous laissez un espace, vous mettez votre question et votre petit nom et vous envoyez tout ça au 939. Et vous pouvez encore remplir le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission, questions aux jardinières. Pardon.
Les jardinières.
Et les jardinières, c'est aussi votre émission du samedi matin. On répond à vos questions jardinage. Il vous reste un bon gros quart d'heure pour nous joindre. On va peut-être rappeler comment le faire, Steve.
C'est le 0901 70 20 20. Vous pouvez nous appeler à tout moment. Ça nous fera plaisir de discuter avec vous de vive voix. C'est 36 centimes la minute. 0901 70 20 20. Il y a bien sûr les SMS en mettant jardin au début de votre message. Vous envoyez ça au 939. Et vous pouvez également passer par notre formulaire en ligne sur questions aux jardinières.
Comme l'a fait Joël de La Chaux-de-Fonds. On a reçu cette question cette semaine. Bonjour, j'ai ramené de vacances une plante qui m'est relativement inconnue. Selon les recherches, je pense qu'il s'agit d'une plante succulente. Hélas, depuis que je les ai mises dans ma cage d'escalier, elles ont perdu toutes leurs couleurs et sont devenues uniquement vertes. Je me demande pourquoi, peut-être manque d'ensoleillement direct. Et j'ignore également à quelle fréquence les arroser. Il nous remercie de son aide. Alors déjà, Joël, pour commencer à répondre à votre question, malheureusement, la photo n'est pas passée. Vous pouvez essayer de nous la renvoyer. Mais Claudine peut déjà vous aiguiller et vous donner quelques éléments de réponse sur ce qui se passe avec votre plante, Claudine.
Voilà, bonjour Joël, merci pour la question. Alors je soupçonne que vous êtes allé en vacances dans un endroit où il faisait chaud. Parce que souvent les plantes succulentes viennent des endroits chauds et secs. Et pour cause, parce que les plantes succulentes, en fait, elles ont la particularité de stocker de l'eau dans leur tissu pour survivre à la sécheresse. Donc elles sont généralement exposées plein soleil, dans des endroits qui sont plutôt arides ou en tout cas bien drainés. Donc si vous avez mis votre plante dans une cage d'escalier, c'est possible que elle n'ait pas suffisamment d'ensoleillement. Et puis, si vous l'arrosez trop, elle va mourir, elle va devenir toute molle et mourir. Et du coup, je vous recommande de vraiment la mettre en plein soleil, comme dans son milieu naturel, et de l'arroser uniquement quand la terre est sèche et à petite quantité. En fait, il ne faut vraiment pas que les racines baignent dans l'eau. Ça, elle ne va pas du tout aimer. Donc essayez de simplement reproduire son milieu naturel.
Et la prochaine fois, envoyez-nous une carte postale aussi. Merci. On a reçu une autre question de Christiane de Neuchâtel cette fois-ci. Elle nous a envoyé une photo d'un ce qui semble être un vieil arbre, quand même avec une forme assez particulière. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette image
Claudine,
pardon. Moi, j'ai Christiane sous les yeux, donc je me suis un peu perdu. Vous pourriez nous décrire cette photo parce qu'elle se demande quel est cet arbre et qu'est-ce qu'elle peut faire pour qu'il reprenne parce qu'il est tout malingre et jaunissant.
Alors, je ne sais pas si c'est vraiment qu'il est malingre, parce qu'on dirait un peu un bonsaï, en fait, vu la taille. J'arrive pas à dire la hauteur, mais c'est vrai qu'on dirait un petit arbre qui a été taillé vraiment spécifiquement pour être joli, pour avoir cette forme. Et puis, il a un gros tronc. Enfin, voilà, je trouve qu'il est joli. C'est juste qu'effectivement, le dessus de l'arbre est tout brun et jaunissant. Et alors, malheureusement, j'arrive pas à dire quel arbre c'est, mais on voit qu'il y a une partie de l'arbre qui est verte encore. Donc, s'il y a une partie qui est verte et une partie qui est brune, c'est probablement que l'arbre a eu vraiment soif cet été. À mon avis, c'est ça, tout simplement. On a eu un été qui était quand même très sec. Donc, ce que je recommande de faire, c'est simplement d'attendre, voir ce qui se passe l'année prochaine. Parce qu'on se dit que les arbres sont morts hein, ou que une partie est morte. Mais des fois, la force de vie est vraiment grande dans les arbres et ils repartent contre toute attente. Donc, j'attendrai de voir le printemps prochain, voir si tout d'un coup, ça reprend. Et puis, si ça ne reprend pas, peut-être le tailler pour garder uniquement la partie qui est encore verte, ou simplement même le laisser comme ça, puis ça fait des biotopes pour les petits insectes, c'est toujours joli quoi.
Et lui laisser sa chance, ça, ce
exactement.
Petit arbuste. Merci d'avoir répondu à Christiane. Claudine, on va parler de tomates, tiens, encore. Est-ce qu'après avoir récolté les dernières tomates, il faut arracher la plante, est-ce qu'on peut laisser les racines dans la terre?
Mais alors effectivement, on se dit qu'il faut absolument arracher les plantes quand on prépare le sol pour l'hiver. En fait, pas du tout. Vous pourriez même les laisser pendant tout l'hiver, hein, mais effectivement, pour une question d'esthétique, on préfère quand même enlever les pieds de tomates qui sont morts. Et puis, on peut simplement les couper au collet, en fait, donc juste en-dessus de la surface de la terre. Et ça va laisser toutes ces racines dans le sol. Et ces racines, en fait, vont nourrir les organismes du sol. Donc au contraire, si vous pouvez les laisser, tant mieux pour toute la petite microfaune et macrofaune microfaune du sol qui va s'en régaler et qui va creuser tout plein de petites galeries et aérer votre sol. Donc voilà, moi je dirais couper simplement à la base et puis laissez-le pour l'année prochaine. Franchement, ça va pas gêner du tout.
On a reçu une autre question un peu plus pragmatique. J'ai une cheminée, du coup, des cendres. Est-ce utile de les étendre sur le potager ?
Alors oui, effectivement, ça peut toujours être utile parce que ça apporte des minéraux en fait et du carbone qui peut être utile pour certains micro-organismes et puis pour les plantes évidemment. Mais après, c'est vrai que si on étend trop de cendres toujours au même endroit, on déséquilibre la terre. En fait, c'est comme partout. Quand il y a trop de quelque chose, c'est pas adapté. Donc, je recommanderais de faire plutôt un épandage, on va dire, vraiment diffus, et puis pas non plus des kilos et des kilos de cendres toujours au même endroit, quoi.
Est-ce qu'on peut faire d'autres choses avec les cendres ? Je pense par exemple qu'on fait de l'engrais avec du purin d'ortie. Est-ce qu'on peut faire un purin de cendres ?
Non, alors j'ai jamais entendu parler de ça. Par contre, on peut faire de la lessive et ça marche très bien.
Vraiment ?
Oui, oui, ça marche, ouais.
On en parlera une fois. Lessive de cendres, c'est intéressant. C'est une manière écologique d'utiliser sa cendre qu'on ne sait plus quoi en faire. On va parler engrais vert, Claudine. J'ai semé de la moutarde comme engrais vert, justement, il y a quelques semaines. Est-ce qu'il faut la couper avant l'hiver ?
Non, pas forcément. C'est un peu le même principe que les tomates. Donc l'idéal, c'est vraiment de les laisser mourir. Ça va même faire un paillage, donc une couverture de sol pour l'hiver. Et puis ça va justement permettre à toutes ces petits animaux du sol et ces bactéries de vraiment travailler le sol pendant tout l'hiver en étant sous un douillet duvet de moutarde écrasé, quoi. Donc vraiment, je la laisserai là. Et puis, le but des engrais verts, c'est justement de fertiliser le sol, en fait, de l'amender aussi. Et puis, si vous laissez tout en place, ça va faire effet encore plus.
Une question enfin sur l'ensoleillement. Une personne qui nous dit qu'elle a un grand noyer à côté de son potager qui fait de l'ombre, qui empiète un peu sur le jardin potager. Elle se demande si c'est bien ou pas.
Ah bah alors finalement c'est un peu l'idée de la permaculture de faire avec le contexte et pas forcément modifier toujours le contexte pour qu'il nous convienne. Finalement si le grand noyer est là et qu'il nous plaît et qu'il est beau, autant le laisser. Et du coup effectivement on pourra pas forcément cultiver tout dans le potager, en tout cas dans cette zone ombragée du potager, parce qu'il y a certaines plantes qui ont besoin de beaucoup de soleil, par exemple les tomates ou les aubergines. Mais finalement, si on choisit des plantes qui aiment la mi-ombre, ce sera juste parfait en fait.
Donc... Mais il faut avoir des plantes qui aiment la mi-ombre, mais ça empiète du coup quand même, ça peut avoir un impact sur le jardin potager.
Oui, ça a un impact évidemment, parce que c'est un élément qui est là, donc il faut le prendre en compte, mais on peut choisir effectivement des cultures qui aiment bien justement la mi-ombre, typiquement des salades en fait, des salades en plein soleil, on voit, hein, elles deviennent toutes flappy, donc autant les mettre dans un endroit qui leur convienne, par exemple la mi-ombre.
Merci beaucoup Claudine pour toutes ces précisions. On va se retrouver dans un instant pour déjà la fin de cette émission.
7h, 8h, les jardinières.
Et il est déjà presque l'heure des adieux, mais avant de laisser filer notre invité, dites-nous Claudine, c'est l'automne qui a débuté hier pour être précise. Alors à part conserver ces fruits et légumes que vous nous l'avez expliqué en première partie d'émission, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end ?
Bah déjà, on profite du soleil avant la fin du soleil. Non, c'est pas vrai. Mais on va effectivement récolter tout ce qu'il y a au jardin parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à récolter. Et puis, on va prendre soin de son sol, on va lui mettre un peu de compost, on va le couvrir, on va nettoyer entre guillemets, un peu le jardin, donc enlever les feuilles, les plantes qui sont mortes et qui ne sont pas très jolies. On peut aussi les laisser en place hein, si on préfère vraiment profiter du soleil dans sa chaise longue. Donc y a plein de petites choses à faire et pas que conserver ses légumes.
Merci Claudine.
Bah, avec plaisir.
Ah bah voilà.
Était déjà partie.
Ouais, elle était déjà partie.
Aller faire des bocaux, elle est partie. Elle a
exactement, elle est allée remplir toute sa cave. Claudine, on rappelle que vous êtes permacultrice et cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales à la microferme biologique La Rochette à Charmoille. Bon week-end et à bientôt chez les jardinières.
À bientôt, merci.
Et puis on rappelle que si vous voulez suivre des cours avec Claudine, vous pouvez aller sur son site vie-la-permaculture.ch. Elle donne des cours de lactofermentation dont on a parlé ce matin. Voilà. Les jardinières seront de retour samedi prochain. Et cette fois-ci, nous serons en compagnie de Julien Flunzer, coach en jardinage. Et vous pouvez nous envoyer vos questions jardinage en tout temps, soit en remplissant le formulaire sur notre site, soit par SMS en tapant jardin, un espace et votre question. Et vous nous l'envoyez au 939 ou alors samedi prochain dès 7h30 en direct par téléphone. Voilà, je crois que cette fois j'ai tout dit. Bon premier week-end automnal, Steve.
Oui, bel automne à toutes et tous.
Oui, bon, on va se retrouver quand même plusieurs fois au courant de l'automne, j'espère.
S'il vous plaît.
Bon week-end à toutes et à tous. À bientôt.
7h, 8h, les jardinières.